Décryptage. Clotilde Dumais.
C'est un rapport qui agite la classe politique française, un peu plus de 70 pages sur les frères musulmans et l'islamisme, rédigé par un ancien ambassadeur et un préfet. Il pointe notamment le danger d'un islamisme municipal en France et une menace pour la cohésion nationale. Leurs conclusions ont été évoquées lors d'un conseil de défense la semaine dernière à l'Élysée. Certains dénoncent toutefois une instrumentalisation politique, d'autres assurent que ce travail n'apporte pas vraiment de nouvelles connaissances. C'est en tout cas l'occasion de revenir sur un autre volet de ce rapport, qui tente aussi d'analyser l'implantation des frères musulmans en Europe et dans certains pays en particulier. Alors lesquels sont concernés précisément? Quelle est aujourd'hui l'influence des frères musulmans sur le continent européen? Pourquoi et comment s'y sont-ils installés? Et faut-il craindre d'autres mouvances? On en parle ce soir dans Décryptage. Et j'accueille en studio Hakim El-Karoui, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé au think tank Terra Nova, président du Club 21e siècle. Vous êtes auteur notamment de ce rapport « La fabrique de l'islamisme » qui avait été publié par l'Institut Montaigne en 2018. D'abord, simplement, pour que tous les auditeurs comprennent un petit peu de quoi l'on parle, qui sont tout simplement les frères musulmans, même si c'est peut-être pas si simple que ça, mais quel est en tout cas un petit peu leur objectif et quels autres courants incarnent aussi une forme d'islamisme à côté des frères musulmans?
Alors en quelques mots, parce qu'effectivement la question
pas si
est vaste.
Simple, effectivement.
Les frères musulmans, c'est une organisation qui a quasiment un siècle, qui est née en Égypte en 1928 à l'instigation d'un instituteur qui s'appelait Hassan el-Banna, dans un contexte de fin de la colonisation britannique, mais pas de réelle autonomie encore du pouvoir égyptien, avec un projet qu'il résume en quelques mots, avec un slogan, l'islam est la solution, le Coran est notre constitution. C'est un projet qui se veut vraiment alternatif à l'Occident. Dans un moment où, toutes ces années 20, il y avait une fascination et une répulsion pour l'Occident dans le monde arabe. Fascination parce que c'était la modernité, et puis c'était la force. Et puis répulsion parce que c'était le colonialisme. Et il y a eu vraiment deux voix qui ont lutté contre la tradition. Les deux étaient d'accord pour dire la tradition, c'était ça le problème. Il y a eu une voix modernisatrice à l'occidental. C'était la même période d'Atatürk, par exemple. Et puis, il y a une voie qui a consisté à dire le problème, c'est qu'on n'a pas été assez nous-mêmes. Et il faut qu'on se réinvente. Et il faut qu'on se réinvente en utilisant la religion, mais en allant contre la tradition religieuse. Donc, c'était un grand travail de réinvention religieuse. C'est pas très loin de ce qu'est en train de faire une certaine droite conservatrice aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, et peut-être même en France. Et donc, ils ont construit un système qui était fondé sur une vision assez simple et surtout de l'action sociale. Le but, c'était vraiment de rendre des services, pas faire de la promotion théologique ou religieuse, mais de se faire savoir par le bien que l'on faisait. Et ça, ils l'ont fait en Égypte, puis ensuite au Mashrek, et puis ensuite dans le Golfe, puis ensuite au Maghreb, et ensuite en Europe.
Quelle est leur différence, par exemple, avec le salafisme, les djihadistes, dont on entend évidemment aussi beaucoup parler?
Alors, c'est fondamentalement assez différent. Les salafistes, d'abord, ça vient vraiment d'Arabie Saoudite. Les salafistes, leur objectif, c'est d'une certaine manière l'imitation du prophète. Leur doctrine, elle vient du wahhabisme saoudien. On dit qu'elle est hors du monde, quand les frères musulmans sont à l'intérieur du monde. Ce qu'on retrouve dans le débat français, il y a l'antrisme des frères musulmans et puis le séparatisme des salafistes. Eux, ils ont une pratique religieuse qui est beaucoup plus démonstratrice, assez spectaculaire, parce que les voiles totalement couvrants, le but, c'est de s'habiller quasiment comme du temps du prophète. C'est vraiment imiter la façon dont vivait le prophète. Et c'est une logique qui est plus fermée. Avec un accord avec le gouverneur, enfin avec la famille Saoud historique, pour prendre le pouvoir. Donc il y avait la famille religieuse et puis la famille politique. Les politiques l'ont emporté. Mais ce qu'ont fait les Saoudiens, c'est que très vite, ils ont wahhabisé les musulmans immigrés en Arabie Saoudite, qui étaient, par exemple, des Égyptiens, mais aussi des gens du Mashrek. Et là, il y a eu un accord. Les frères musulmans, en fait, ont construit les États du Golfe. C'est pour ça que c'est assez cocasse d'entendre les Saoudiens, les Émiratis, etc., dire qu'ils sont frères. Ils procèdent des frères musulmans. Mais la doctrine religieuse, elle était très spécifique. Et puis ensuite, il y a eu des branches violentes. On dit qu'Al-Qaïda procède plutôt des frères musulmans. Daesh procède plutôt du salafisme dans le rapport au monde, le rapport au texte, dans les références religieuses.
Et eux ont une vision encore plus de terrorisme, on va dire, plus violente. Hein, pour revenir.
Alors, il y a plusieurs types de salafistes. Il y a les salafistes qu'on dit quiétistes, qui, eux, ont plutôt tendance à être dans leur coin, à essayer d'inventer une société rêvée, très, très, très rétrograde, enfin, eu égard aux standards occidentaux contemporains. Mais ils ne sont pas du tout violents. Il y a une partie violente qui, effectivement, a donné Daesh. Et puis, il y a eu aussi une fusion entre les deux. En Arabie Saoudite, par exemple, c'était le mouvement du réveil de la Sahwa qui a fait très très peur aux Saoudiens parce qu'ils avaient une sorte d'orthopraxie religieuse. Donc ils disaient les Saouds sont des mauvais musulmans, mais contrairement aux salafistes traditionnels saoudiens, ils disaient il faut qu'on mène une action politique. Et la première décision du prince héritier saoudien en 2015-2016 a été d'emprisonner un certain nombre de prédicateurs qui étaient devenus extrêmement populaires sur les réseaux sociaux.
Alors, vous le disiez, les frères musulmans donc, sont nés en Égypte. Ils ont dirigé, ils ont pris le pouvoir relativement récemment avec Mohamed Morsi. Mais ça s'est avéré assez peu conclusif, ça n'a pas duré bien longtemps. Est-ce que c'est aussi ça qui fait qu'ensuite, ils se sont davantage tournés peut-être vers l'Europe ? Est-ce que ça a été le début,
Non, parce qu'ils sont en Europe depuis les années 50. Mohamed Morsi, effectivement, ça a duré 2 ans, ça s'est mal passé. Alors, il a pris le pouvoir de façon démocratique, hein, puisqu'ils ont été élus, avec d'ailleurs des salafistes qui étaient très très hauts, qui avaient fait 25%. Ça s'est mal passé à la fois parce qu'ils ont franchement très mal géré le pays, et puis aussi parce qu'ils ont créé un mouvement d'opinion contre eux, avec à la fois l'armée, les grands hommes d'affaires, une partie de la population, et ça s'est soldé au bout de 2 ans par un coup d'État. En 2013, c'est comme ça que le général Sissi a pris le pouvoir. Et après, l'armée égyptienne est passée dans un mode, de répression très très forte. Ils sont partis beaucoup en Turquie.
Ça a quand même été le début, en tout cas cet épisode. On a un petit peu chassé les frères musulmans dans le monde arabo-musulman.
Voilà. Enfin, mais ils sont arrivés au pouvoir plus ou moins en Tunisie, pas tout seuls, au Maroc. Ils étaient vraiment pas très loin du système de pouvoir algérien, en partie en Libye. Donc le printemps arabe, ça a été vraiment l'acmé de leur pouvoir politique. Et puis ça a été aussi le début du déclin, parce qu'ils ont très mal géré, puis parce qu'ils ont eu face à eux, non pas des Occidentaux, mais des gens du Golfe qui étaient vraiment extrêmement déterminés à les sortir des différents gouvernements.
Et vous le disiez, donc ils se sont effectivement tournés vers la Turquie. Est-ce que c'est une sorte de porte d'entrée, on va dire, aussi vers l'Europe ?
L'Europe, je vous dis, ils sont arrivés dans les années 50. En France, ils sont arrivés vraiment au début des années 80. C'était pas des mouvements organisés, c'était des étudiants qui étaient proches, en fait, de ces thèses-là dans leur pays d'origine. En France, c'était surtout des Marocains et des Tunisiens. Et puis, ils ont commencé à prêcher, à faire des études avec une force qui était qu'ils étaient assez cultivés, enfin c'était des étudiants, c'était dans le supérieur, dans un contexte où la population musulmane de l'époque, c'était beaucoup les travailleurs immigrés qui étaient venus dans le BTP, dans les mines, dans les usines automobiles, etc. Donc ils ont acquis très vite une forme d'aura intellectuelle, et puis l'action qu'ils ont menée, qui était une action sociale, a été assez efficace. Les Turcs, c'est une autre histoire. Les Turcs, c'est une histoire du combat avec le kémalisme, très clairement. Mais Erdogan, aujourd'hui, c'est les frères musulmans, mais c'est d'abord du nationalisme. Enfin, c'est vraiment le mélange du nationalisme turc et d'un soubassement aux frères musulmans. Il a été lui-même formé dans des structures religieuses et scolaires, universitaires, qui sont très proches des frères. Mais ça dit assez bien, d'une certaine manière, l'avenir du mouvement, et l'avenir d'ailleurs de ce qui se passe partout dans le monde arabe. Aujourd'hui, ce qui triomphe dans le monde arabe, c'est pas l'islamisme, c'est le nationalisme. Et c'est pas le nationalisme arabe, c'est le nationalisme dans un seul pays. Et d'une certaine manière, les Turcs montrent l'exemple depuis quelque temps.
Alors ça, on va effectivement y revenir tout à l'heure, mais pour rester encore un petit peu sur l'Europe, parce que c'est vrai que le rapport français qui a été publié la semaine dernière, il revient quand même assez largement, et évoque plusieurs pays en particulier dans lesquels les frères musulmans auraient été particulièrement influents, notamment la Belgique. Le rapport dit que c'est le carrefour européen de la mouvance frériste. Le ministre belge de l'Intérieur, Bernard Quintin, a d'ailleurs réagi il y a quelques jours, on l'écoute.
Nous devons donc établir une législation précise pour qu'elle soit efficace, pour éviter que certaines organisations ou associations appartenant, entre autres, à cette nébuleuse des storming des frères musulmans, passent entre les mailles du filet. Je l'ai dit et je le répète, ce travail est actuellement en cours depuis le début de mon mandat, il y a un peu plus de 3 mois. J'ai pris aujourd'hui contact avec mon homologue français, M. Retailleau, pour échanger sur le sujet et pour le rassurer déjà que nous prenons évidemment la situation tout aussi au sérieux que dans l'Hexagone, conscient d'ailleurs des liens dans un sens comme dans l'autre. Les services belges sont évidemment aussi en contact constant avec les autres services de renseignement et de sécurité européens et au-delà.
Hakim El Karoui, est-ce que la Belgique effectivement fait partie des pays où les frères musulmans sont les plus implantés et ont le plus de poids ?
La Belgique, la Suisse, historiquement, la famille El Banna s'était réfugiée en Suisse, chassée par Nasser. Ils étaient très implantés aussi en Autriche. Mais le cœur du mouvement, en fait, c'est l'Allemagne. L'Allemagne avec les Turcs. C'est vraiment en Allemagne qu'ils sont de loin le plus puissants. Mais on dit pas les frères musulmans en Allemagne. On parle de différents mouvements.
Et pourquoi
en
l'Allemagne, justement ?
Parce qu'il y a des Turcs. Il y a 800 000 Turcs ou immigrés turcs en Allemagne. Et donc, en fait, ils sont venus avec en plus en Turquie et en Allemagne et d'ailleurs dans l'est de la France aussi, deux mouvements, parce qu'il y a le mouvement lié aux frères, puis il y a le mouvement lié au pouvoir turc. La Belgique, c'est une autre histoire. La Belgique, c'est un État assez faible qui avait vraiment sous-traité, non pas aux frères musulmans, mais à l'Arabie saoudite, l'organisation de son islam, un islam qui est essentiellement marocain et turc. Donc les Turcs sont aussi là, mais les Saoudiens avaient bien pris en charge la communauté marocaine. Et chez les Marocains, comme en France, via des étudiants, il y a aussi des organisations liées aux frères qui se sont organisées. Après, enfin, on va peut-être en parler, je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance dans la communication qui est faite au rôle des frères musulmans. Ils ont été puissants, en vrai, en France par exemple, il y a 20 ans. Là, ils étaient très puissants. Ils sont vraiment sur le déclin. En Belgique, c'est un petit peu moins le cas parce que les salafistes ont pris moins de... Enfin, ils étaient à la fois très puissants via l'Arabie saoudite, mais ça a été plus organisé d'une certaine manière.
Et au Royaume-Uni, pardon, je vous coupe, mais avant effectivement de poursuivre sur ce déclin, au Royaume-Uni, où est-ce qu'on en est ? Parce qu'il y a eu un rapport un petit peu, comme ça vient d'être fait en France, il y a eu un rapport qui a été fait là-bas il y a maintenant 10 ans. Est-ce que à l'époque, voilà, on avait déjà établi l'importance des frères musulmans au Royaume-Uni ? Est-ce qu'il y avait eu des décisions qui avaient été prises ? Voilà, est-ce que des choses avaient changé ?
Au Royaume-Uni, il y avait d'autres organisations parce que c'est pas la même immigration. Il y a assez peu d'Arabes, hein, c'est plutôt des gens du sous-continent indien. Donc il y a toujours des cousins d'une certaine manière. Il y avait un très très grand libéralisme vis-à-vis de l'islam radical, hein, parce qu'il y avait des prêches qui appelaient à la violence vraiment au cœur de Londres. On appelait Londres le Londonistan. Tout ça est quand même assez fini, hein, parce que ça a été contrôlé notamment après les différentes vagues d'attentats. Mais c'est pas les frères, c'est vraiment la matrice égyptienne qui est passée par le Mashrek, qui s'est construite dans le Golfe et puis qui est venue par le Maghreb. Donc c'est pas des organisations liées aux frères qui étaient le plus puissant au Royaume-Uni. Non, c'était vraiment la Suisse. Je vous dis, l'Allemagne, mais avec la Turquie, et puis la France. La France, ils se sont développés, en fait, ils se sont rendus compte, ils ne le croyaient pas, que la deuxième génération pouvait être un terreau pour leur expansion. Ils s'en sont rendus compte avec la fameuse affaire de Creil, le voile en 89, et là, tout d'un coup, ébahis, ils pensaient que vraiment les enfants d'immigrés étaient perdus pour la cause. Ils se sont rendus compte qu'au contraire, pour des raisons identitaires, il y avait d'une certaine manière une demande.
Est-ce qu'ils ont aussi eu une influence au niveau des institutions européennes ? Parce que ça, c'est aussi ce que pointe le rapport, en tout cas, qui a été publié. Les institutions européennes, notamment d'après ce rapport, sont une source majeure de financement pour la mouvance.
Non, c'est... Enfin, il ne faut pas faire de complotisme. Je sais quel chercheur, quelle chercheuse il y a derrière. Elle n'a pas eu de financement pour ses projets. Elle a accusé les institutions européennes d'être vendues aux frères musulmans. Non, c'est faux. Il ne faut pas généraliser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas isolés. Il y a eu un cas, par exemple, de financement européen qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, c'est le Coran européen. Donc on a dit, regardez, la Commission européenne est vendue aux frères musulmans. Non, c'est juste des médiévistes qui étudient la façon dont les philosophes, à l'époque médiévale, enfin, comment ont circulé les idées entre le XIIIe, je crois, et le XVIIe siècle. Donc il ne faut pas caricaturer.
Vous le disiez, Hakim El-Karoui, aujourd'hui, les frères musulmans, a priori, sont en déclin, en tout cas en Europe. Qu'est-ce qui fait, d'ailleurs, que leur influence a été réduite? Et est-ce qu'à la place, voilà, d'autres mouvances prennent le relais?
Alors, ce qui fait que leur influence a été réduite, c'est très simple. Ils n'ont pas passé la main à la génération d'après, les fondateurs. D'ailleurs, ils sont toujours à la tête des organisations. Ils ont fait pas mal de business. Ils se sont institutionnalisés, ils se sont notabilisés. En France, ils ont essayé, Nicolas Sarkozy s'est beaucoup appuyé sur eux. Il avait été à leur congrès au Bourget. Pendant les émeutes de 2005, il leur avait demandé d'agir. Et en fait, en se notabilisant, ils se sont d'une certaine manière marginalisés. Et les jeunes ont été chercher une nouvelle offre qui était vraiment du côté du salafisme et de plus en plus du côté du salafisme digital. Et aujourd'hui, la tendance qui est très forte, qui est très puissante, c'est en fait des influenceurs musulmans, islamistes, qui sont des sortes de coachs en développement personnel avec un soubassement religieux, exactement comme l'ont fait les évangéliques aux États-Unis, au Brésil, il y a maintenant quelques décennies. Et c'est eux qui tiennent c'est eux qui ont la main. Et ce qui est un peu dommage dans ce rapport, c'est qu'on se concentre sur les frères musulmans, quand les frères musulmans, en fait, d'ailleurs, quand on lit les chiffres du rapport...
On a 10 ou 20 ans de retard, en fait, sur le constat.
C'est ça, ils disent 400 personnes très actives, enfin... 400 personnes, ça ne suffit pas pour imposer la charia à toute la France, comme l'ont dit quelques personnalités politiques, y compris le ministre de l'Intérieur. Non, là où il y a un vrai risque, là où il y a une influence, là où il y a une puissance, mais elle est beaucoup plus compliquée à appréhender. Ce n'est pas une organisation verticale avec un centre, c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc c'est une dizaine d'influenceurs, qui d'ailleurs pour la plupart ne sont plus en France, mais là où sont les influenceurs, c'est-à-dire à Dubaï, qui font de l'argent.
Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Aujourd'hui, justement, vous parlez du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bon, il a un petit peu précisé le dispositif qu'il voulait mettre en place pour lutter contre ce qu'il appelle les écosystèmes islamistes. Bon, il parle d'une réorganisation au niveau des instances de l'État. Bon, c'est quelque chose d'un peu administratif, mais ça veut dire qu'on est un petit peu à côté de la plaque et que ça ne va pas forcément avoir de conséquences.
Il y a clairement des organisations locales, il y a des inquiétudes sur les prochaines municipales, etc. Parce que, en fait, les maires, ils sont toujours tentés de faire un peu de clientélisme. Donc, quand il y a une communauté musulmane importante et des activistes, ils vont discuter avec les activistes locaux. Ça, c'est assez classique. Mais la vraie menace, elle est diffuse, en fait. Et alors, évidemment, le ministère de l'Intérieur, il aime bien avoir des institutions en face de lui, y compris pour les combattre. Là, il n'y a pas d'institution. Là, il y a des jeunes qui sont vaguement en réseau les uns avec les autres, mais qui ont surtout la puissance de TikTok et la puissance de YouTube, et qui ont une force, c'est qu'ils connaissent parfaitement leur public. Ils savent répondre aux questions qu'ils se posent. Et en fait, c'est des guides de vie.
Et ça veut dire que ça, justement, est-ce qu'au niveau européen, puisqu'on parle de l'Europe, on pourrait davantage agir?
Alors,
il s'agit d'une régulation quand même des réseaux sociaux.
C'est une régulation, c'est des gens qui sont intelligents, ils connaissent la loi, ils savent ce qu'ils peuvent dire et ne pas dire. Donc c'est fini le moment où on pouvait les interdire. Il y en a quelques-uns, évidemment, mais on pouvait les interdire parce qu'il y avait un appel au meurtre, un appel à la discrimination, de l'antisémitisme, etc. Ça existe, mais tout ça n'est plus que suggéré. Et en fait, la vraie façon de répondre, mais c'est compliqué, c'est pas institutionnel, c'est de proposer autre chose. Et ceux qui peuvent proposer autre chose, c'est pas les gouvernements, c'est d'autres musulmans, d'autres jeunes musulmans qui doivent être capables de répondre aux questions.
Poser un autre discours.
Avec un autre discours. C'est, en fait, d'une certaine manière, ça ressemble aux grandes opérations d'influence. Alors, c'est fait pour décrédibiliser et pour imposer son récit. Là, c'est exactement ça ce qui se passe. Et d'une certaine manière, à trop regarder des institutions un peu obsolètes, en France, c'est vraiment ça avec les frères, on a oublié de voir ce qu'il y avait sous nos yeux, sur nos téléphones portables, et c'est infiniment plus puissant et dangereux.
Merci beaucoup, Hakim El-Karoui, pour